Marcel !
Nous avons tous besoin, pour rendre la réalité supportable, d'entretenir en nous quelques petites folies.
C'est au moment où j'avais reconnu inconsciemment le goût de la petite Madeleine.
Un été avec Proust. Une émission de Laura El Maki.
Nous avons tous besoin, pour rendre la réalité supportable, d'entretenir en nous quelques petites folies. Dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », le deuxième volume d'À la recherche du temps perdu, le narrateur commence sérieusement à s'interroger sur l'amour et ses difficultés. Suite à un malentendu, il ne parle plus à celle qu'il aime, la petite Gilberte, mais espère de toutes ses forces qu'ils vont vite se réconcilier. Les petites folies dont il parle, ce sont donc ces espoirs nécessaires qui lui permettent de croire en des temps meilleurs et de continuer à vivre. Et c'est un exemple, parmi d'autres, du besoin de rêve à l'œuvre dans la recherche. Contre une réalité qui ne cesse d'être décevante, notre héros, lecteur des Mille et une Nuits, semble avoir trouvé la parade idéale. Jamais pleinement endormi, ni totalement réveillé, il joue avec les frontières du songe. Alors comment Marcel Proust, l'écrivain insomniaque par excellence, devient-il avec son livre le romancier du sommeil et du rêve? Julia Kristeva nous accompagne ce soir et nous guide sur cet énième chemin de l'imaginaire proustien.
Je voudrais encore vous entendre sur Proust.
Alors, j'ai connu Marcel Proust lorsqu'il était un inconnu. Et nous le traitions toujours comme s'il était célèbre. C'était une habitude prise. Lucien Daudet m'avait mené dans cette chambre du boulevard Haussmann où il vivait couché dans un nuage de poudre anti-asthmatique. On n'ouvrait jamais les fenêtres. La poussière recouvrait les meubles comme une fourrure de petit gris. Proust écrivait dans son lit, ganté, environné de plaques de liège. Il était dans une guérite de plaques de liège. Sa barbe et sa frange de mèche noire le faisaient ressembler au Carnot-Mort du musée Grévin, à quelques Capitaine Nemo de Jules Verne.
Bonsoir Julia Kristeva.
Bonsoir.
Jean Cocteau nous racontait dans cette archive comment Marcel Proust écrivait allongé dans son lit, enfermé dans cette chambre obscure, capitonnée. Cette chambre qui est aussi le point de départ finalement de la recherche. Et c'est très étonnant d'ouvrir d'ailleurs ce livre sur cet homme qui s'endort et qui tente plutôt de s'endormir. Pourquoi Proust est aussi intéressé par le sommeil, par cette expérience sensorielle finalement de base?
Oh, il n'y a pas que le sommeil chez lui, mais nous avons vu pendant cette semaine un nombre d'autres situations. Le sommeil a aussi cette capacité de donner libre cours à l'imaginaire sans les contraintes des censures conscientes. Et quand il écrit « Mon seul organe pour jouir de la beauté, c'est mon imagination », on peut penser que le sommeil fait partie de cet imaginaire libéré, défrayé de la conscience. Mais ce qui est peut-être plus spécifiquement proustien, c'est que ces rêves, ces rêveries, ne sont pas toutes de type extravagant au sens d'ajouter des images invraisemblables, surréalistes, etc. Elles le conduisent à des limites de la personnalité et font de lui un explorateur des états inconnus ou peu connus à son époque et qu'on commence maintenant à comprendre.
Oui, c'est vrai qu'il n'est pas du tout dans la démarche des surréalistes, d'André Breton, de Paul Éluard, de toute cette bande des surréalistes qui utilisaient le rêve, mais bien autrement.
Oui, c'est pas un rêve qui serait diabolique ou qui serait prophétique. C'est un rêve qui nous conduit aux limites de la personne et aux frontières de l'indicible et même aux frontières de sa recherche. La recherche du temps perdu est aussi une recherche du hors-temps. Il y a du temps avec des souvenirs, mais ce que j'essaye de faire, moi, Proust, dit-il, c'est d'aller là où il n'y a pas de souvenirs et il n'y a pas de temps. Et c'est dans les rêves qu'il trouve ces états que nous font connaître aussi certains mystiques comme Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila.
Alors sans plus attendre, je vous propose d'écouter Guillaume Gallienne qui nous lit un extrait de la seconde partie de Sodome et Gomorre. Le narrateur qui tombe de fatigue décrit les étapes du sommeil profond. «
J'entrais dans le sommeil, lequel est comme un second appartement que nous aurions et où, délaissant le nôtre, nous serions allés dormir. Il a des sonneries à lui, et nous y sommes quelquefois violemment réveillés par un bruit de timbre parfaitement entendu de nos oreilles, quand pourtant personne n'a sonné. Il a ses domestiques, ses visiteurs particuliers qui viennent nous chercher pour sortir, de sorte que nous sommes prêts à nous lever quand force nous est de constater, par notre presque immédiate transmigration dans l'autre appartement, celui de la veille, que la chambre est vide, que personne n'est venu. La race qu'il habite, comme celle des premiers humains, est androgyne. Un homme y apparaît au bout d'un instant sous l'aspect d'une femme. Les choses y ont une aptitude à devenir des hommes, les hommes des amis et des ennemis. Le temps qui s'écoule pour le dormeur, durant ces sommeils-là, est absolument différent du temps dans lequel s'accomplit la vie de l'homme réveillé. Tantôt, son cours est beaucoup plus rapide, un quart d'heure semble une journée, quelquefois beaucoup plus long, on croit n'avoir fait qu'un léger somme, on a dormi tout le jour. Alors, sur le char du sommeil, on descend dans des profondeurs où le souvenir ne peut plus le rejoindre et en deçà desquelles l'esprit a été obligé de rebrousser chemin. L'attelage du sommeil, semblable à celui du soleil, va d'un pas si égal dans une atmosphère où ne peut plus l'arrêter aucune résistance qu'il faut quelques petits cailloux aérolithiques étrangers à nous, dardés de l'azur par quel inconnu, pour atteindre le sommeil régulier, qui sans cela n'aurait aucune raison de s'arrêter et durerait d'un mouvement pareil jusque dans les siècles des siècles, et le faire, d'une brusque courbe, revenir vers le réel, brûler les étapes, traverser les régions voisines de la vie, où bientôt le dormeur entendra, de celle-ci, les rumeurs presque vagues encore, mais déjà perceptibles, bien que déformées, et atterrir brusquement au réveil. Alors de ces sommeils profonds, on s'éveille dans une aurore, ne sachant qui on est, n'étant personne, neuf, prêt à tout, le cerveau se trouvant vidé de ce passé qui était la vie jusque-là.
Alors le sommeil comme second appartement, il y a beaucoup de choses dans ce texte, on va essayer de toutes les aborder. D'abord, il y a cette idée que c'est vraiment un monde à part. Qui est décrit sous la plume de Proust.
Je pense qu'il y a une descente en soi, dans ce moi dont on parlait au début de notre rencontre. Le moi perd ses limites. C'est une hallucination sans objet, sans personne. On l'a entendu, la chambre est vide, personne n'est venu. Il n'y a que des sons, des lumières, il n'y a pas de représentation, on ne voit rien, il n'y a pas d'objet. Il le dit très nettement... Si nous faisons figurer ces souffrances et ces plaisirs de ce rêve, ils ne pourraient figurer dans aucun budget, pas celui de la vie courante. Donc c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la vie. C'est une dépersonnalisation totale.
Oui, c'est une seconde vie. Gérard de Nerval, voilà. Gérard de Nerval parlait d'une seconde vie. C'est vraiment quelque chose qui n'a aucun rapport avec son quotidien.
Ce n'est presque pas une vie. On est dans un état de mort psychique, parce que la vie suppose qu'il y ait des sujets, des objets et des interactions. Là, on est dans un état de dépersonnalisation qui fait penser par moments, dans les métaphores qu'emploie Proust, à la caverne sensorielle de Platon,
oui,
où nous sommes enfermés et nous ne pouvons percevoir le monde extérieur parce que nous sommes coupés de toute présence humaine. Il n'y a pas d'alter ego, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Et seules certaines ombres apparaissent, mais qui nous détachent de la réalité. Ce n'est pas la vraie réalité. Il utilise souvent dans ce texte les métaphores de l'attelage, du soleil, de la lumière qui vient de temps en temps. Mais c'est plus profond encore parce que justement, il n'y a que des sons, des douleurs, des souffrances et des joies. Mais sans que ça s'incarne dans aucun objet. Je pense, et c'est l'interprétation que je propose dans mon livre, qu'il est arrivé là dans quelque chose que la clinique découvre très récemment et dont on parle beaucoup, l'autisme. Des personnes qui éprouvent un débordement de sensations qui les annulent, mais qui ne peuvent pas se les approprier, qui ne peuvent pas en parler, qui sont débordées de manière catastrophique
ou exaltée.
Qui ne
les comprennent pas, qui n'arrivent pas.
Il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de moi. C'est un moi sans moi. Il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de temps. Et l'audace extraordinaire de Proust, et peut-être sa biologie, sa physiologie, son histoire lui ont donné l'occasion d'éprouver cela, le conduit à descendre jusque-là et à revenir pour essayer de donner des mots. Et vous voyez combien ces mots sont pas colorés, ce sont pas des tableaux, ça n'a rien à voir avec ce que nous savons de la Madeleine ou de Sonate de Vinteuil, etc.
C'est vraiment très sobre.
C'est une peinture abstraite. Et c'est là qu'il est extrêmement moderne, à la fois à le comparer dans l'histoire de l'art contemporain, plutôt non figuratif, plutôt abstrait, c'est une sorte de Rothko ou de Mondrian, ou alors de convoquer les travaux sur l'autisme. Francis Tostin, la grande psychanalyste anglaise, parlait de notisme endogène que nous aurions tous et que nous n'arrivons pas à reconnaître, mais qui apparaît dans certains états de cure que je peux entendre aussi sur le divan. Et Proust a l'extrême vitalité qui consiste à repêcher cela et à nous le rendre communicable et partageable.
Un été avec Proust, Julia Kristeva, Laura Elmaki.
Alors, vous êtes revenue sur l'idée qu'il n'y a pas de temps dans ce sommeil. Il y a une absence de temps. Le corps est abandonné à ses émotions, à ses sensations, mais il n'a plus de mémoire. Pour la première fois, le narrateur échappe enfin au temps.
C'est un lieu sans lieu, c'est un temps sans temps. Et cela fait penser aussi à quelque chose qui est encore impensable pour la philosophie contemporaine. On le trouve chez les astrophysiciens qui disent que le temps n'existe pas dans le monde cosmologique tel qu'il le retrouve aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui consiste à nous arracher du monde de la communication, du monde du désir, même du monde du désir le plus violent possible qu'il a exploré, et d'aller plus loin même que cela, aux limites presque du psychique. C'est d'une extrême audace et je vous remercie de nous avoir permis d'en parler parce qu'on réduit parfois Proust à un snobisme, à une culture très profonde et d'ailleurs à travers le snobisme, critique même du snobisme, mais en quelque chose de très social et très psychologique. Là, il est dans une psychologie des profondeurs qui est d'une rare pertinence et d'une pensée qu'il souhaitait probablement qu'on reconnaisse à la littérature, que la littérature soit capable de penser ces états-là plus que ne le font la philosophie et d'autres sciences. Il est un précurseur indéniable.
Oui, il est l'un des premiers romanciers au début du XXe siècle à aborder ces sujets-là.
Romancier, même
écrivain,
psychologue et philosophe, personne n'est allé aussi loin.
Alors, le sommeil est une expérience paradoxale. Parce que ce qui est dit dans ce texte, c'est que le corps ressent tout intensément, il reçoit tout du monde extérieur, et en même temps, le narrateur est conduit à l'absence de lui-même. Il y a quand même quelque chose, il y a un double mouvement. À la fois, il ressent tout, et en même temps, il n'est plus lui-même.
Mais voilà, justement, on touche ces étapes psychiques où on est confronté à une intensité du ressenti, ici dans le sommeil, parce qu'il s'agit de souffrance et de joie, mais qui sont de l'ordre de l'indicible. Nous savons que dans beaucoup de cultures, il y a de l'indicible, le divin est convoqué et identifié avec l'indicible, et il se fait fort, son ambition de l'écriture serait non seulement de faire une rivalité à la peinture, à la littérature, et même aux cathédrales et aux rosaces, mais d'entrer jusqu'à l'indicible. Ces états limites, cette espèce de camera obscura de la sensation indicible et de rendre contre la libido, contre le social, contre l'opinion, d'aller dans ces états où existe, frémit l'humain qu'il peut élargir jusque-là. C'est une immense audace d'élargissement et d'augmentation des pouvoirs de l'écriture.
Alors, ce qui suit le sommeil, c'est le rêve. Le sommeil est un tremplin vers le rêve, où l'homme peut voyager en dehors de lui. Le rêve, dans la recherche, il apparaît vraiment tout le temps. Il s'emboîte dans la narration. Le narrateur fait tout le temps référence au rêve, et un rien peut l'amener à rêver. Un nom, un visage, un paysage.
Alors, jusqu'à présent, avec le rêve du second appartement, j'essaie de vous dire que Proust réussit là où l'autiste échoue, c'est-à-dire de nommer ce qui est indicible. Et à partir de là, son imagination, son seul organe pour jouir de la beauté, est une imagination rêveuse, en ce sens que l'état d'écriture est aussi un état de rêve. Quand nous écrivons nos souvenirs Proust le fait de manière paroxystique, mais pour chacun de nous, cela revient à cette expérience-là. Nous sommes libérés des contraintes de la conscience et des interdits, et c'est à partir de là la logique des rêves qui nous rattrape. Donc, son imagination est rêveuse, en effet.
Ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'il les raconte, mais il n'est jamais dans l'interprétation des rêves. Il les donne bruts à lire.
Oui, il n'est dans l'interprétation de rien. Et en même temps, comme Colette, il aurait dit « j'écris, vous voulez encore que je pense ». Il ne les pense pas. Mais contrairement à Colette ou d'autres écrivains, la présence de la vigilance est actuelle et à chaque moment. La manière dont qu'il a de décrire ce ressenti, c'est déjà une connaissance. Il appelle ça intelligence et connaissance, mais pas interprétation. Par exemple, quand il dit que cet indicible n'est pas dans le budget du quotidien, ça veut dire qu'on ne peut pas le compter, on ne peut pas le calculer, on ne peut pas le mettre dans une interprétation qui concerne la vie de tous les jours. Il faut inventer d'autres mots. Donc, il est déjà, il suscite la pensée, il est au bord de la représentation et de l'interprétation. Mais il ne fait pas d'interprétation, heureusement.
Alors pour conclure, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez drôle, c'est que Proust, on sait très bien qu'il dormait très mal, il était toujours dans son lit, mais il dormait extrêmement mal et il s'est passionné pour le sommeil, et c'est peut-être celui qui en a le mieux parlé.
Mais il ne dormait pas, mais tout juste il rêve. Un des grands rois, je crois, Louis XIV, disait « Monsieur, je ne dors pas, tout juste je rêve ». Et il rêve en pensant, et sa pensée est une rêverie, sa littérature
les yeux,
est
les
une...
yeux ouverts.
Voilà, et pour ça qu'il donne l'impression non seulement de quelqu'un qui souffre, mais surtout de quelqu'un qui traverse la souffrance et traverse la vie. En écoutant Cocteau tout à l'heure, je pensais à une autre vision que nous donne de Proust Mauriac cette fois-ci, dans ses visites chez Proust. Il faisait partie de ces jeunes qui voyaient Proust mourir couvert de taches d'encre et étouffant de temps en temps d'asthme, mais tenant sa plume et écrivant, parce qu'il se donnait aussi en spectacle. Il avait l'impression qu'avec l'encre s'écoulait aussi son sang pendant qu'il était dans un état de rêverie et qu'il donnait tout son corps à la littérature comme un Christ à l'éternité.
C'est une très belle image, Proust, qui donne sa vie pour son livre.
À travers l'encre, à travers l'écriture.
Merci beaucoup, Julia Kristeva. On se retrouve demain pour notre dernière émission, notre dernier thème, la dualité de Marcel Proust, juif et catholique, solitaire et mondain, romancier et aussi philosophe. Qui est-il vraiment ? Nous verrons ça demain. Cette émission a été réalisée par Audrey Ripouille avec à la technique Ludovic Asselot et elle a été préparée par Emmanuel Fournier, Valentin Pérez et Aude Vasson. Passez une belle soirée sur France Inter. À demain. I'm not sure, is it how you would say yes? Your room's still open, but I didn't reach the steps. 'Cause when I went nearby to see what I missed, there was your doorman challenging me to confess, friend of mine, my old friend, refine my old. Time.
Et merci à Laura Elmaki qui nous plonge à la recherche du temps perdu. Nous la retrouverons demain soir, toujours en compagnie de Julia Kristeva.